Leclerc.
En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 50 euros de remise immédiate sur le smartphone Galaxy J7 2017, 4G et 13 millions de pixels.
Mais non!
Et si?
Du 10 au 21 octobre chez Leclerc, le smartphone Galaxy J7 2017 avec 50 euros de réduction immédiate est à 299 euros, dont 2 centimes d'éco-participation. Voir modalités dans les magasins participants et détails concernant le DAS sur le site i-tech.leclerc. L'usage d'un kit main libre est recommandé.
C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc.
Christophe Ondelatte sur Europe 1.
Vous sortez juste du boulot, vous venez de faire ses devoirs au petit dernier, vous débarquez à cette heure-ci, au beau milieu de ce programme, soyez les bienvenus. Bonsoir Isabelle Millet.
Bonsoir Christophe.
Votre journal dans un instant avec à la une la Catalogne où la tension monte, la province pourrait déclarer son indépendance lundi. Mon invité à 6h20, Caroline Gott, la directrice de France 2, ce sera sa première réaction au clash très violent qui a opposé samedi dernier dans On n'est pas couché de Laurent Ruquier, Christine Angot à l'écologiste Sandrine Rousseau à l'occasion de la sortie de son livre sur l'affaire Baupin. France 2 n'a pas réagi jusqu'ici. 6h30, une femme de conviction, aujourd'hui Julie Coudry, jeune chef d'entreprise, ancienne syndicaliste étudiante qui va s'intéresser à un point du programme d'Emmanuel Macron, le droit au chômage quand on démissionne. Ensuite, le journal du Monde de Sophie Larmoyer qui va nous raconter qu'un journaliste du Zimbabwe risque d'aller en prison pour avoir révélé que la première dame, Madame Mugabe, distribuait des petites culottes d'occasion à son entourage. Et on terminera par les fourberies de l'ami Muller. Au sommaire ce soir donc, la Catalogne, cette fois vraiment au bord de la sécession, Isabelle Millet.
Elle pourrait entamer le processus d'indépendance dans les tout prochains jours. On parle de lundi prochain et ce malgré l'intervention exceptionnelle hier du roi d'Espagne. Le bras de fer se durcit, Madrid lance aujourd'hui des poursuites contre le chef de la police catalane. La gestion des enseignants épinglés par la Cour des comptes, le système de remplacement des profs est anarchique et inefficace. Perquisition au domicile du tueur de Marseille. Les voisins décrivent un homme poli et sans signe distinctif particulier. Donald Trump au chevet des victimes de Las Vegas. Ce soir, Xavier Yvon nous dira que les enquêteurs s'interrogent sur la santé mentale du tueur. Et puis Didier Deschamps, contraint de revoir ses plans en défense avant le match contre la Bulgarie suite au forfait en cascade chez les Bleus. La bourse a terminé en léger repli, moins 0,08%. Le CAC 40 est à 5363 points.
Nous avons donc choisi ce soir d'ouvrir ce journal avec la Catalogne parce qu'il se passe en ce moment de l'autre côté de la frontière, là, à un mètre de la frontière française, c'est la Catalogne, des choses extrêmement graves et qui risquent encore de s'envenimer.
Cette crise catalane était d'ailleurs aujourd'hui à l'ordre du jour d'un débat au Parlement européen. Alors pour résumer les derniers épisodes, hier, le roi s'est exprimé, chose rarissime. Les indépendantistes, visiblement, n'en ont rien à faire puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient proclamer leur indépendance dans les prochains jours. Bonsoir. Henri de la Guérie.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct de Barcelone, où l'on a appris aujourd'hui que le chef de la police régionale était poursuivi pour sédition et certains emploient carrément ce soir le mot de purge.
Oui, en effet, Josep Luis Trapero est convoqué vendredi à Madrid dans le bureau d'un juge. Lors du référendum, ce sont les agents anti-émeutes de la police espagnole qui ont saisi les urnes et évacué sans ménagement les électeurs. Or, cette mission avait été confiée aux Mossos d'Esquadra, les policiers catalans. Ils n'auraient donc pas exécuté les ordres de Madrid. Certes, ces policiers ont fermé près de 200 bureaux de vote, ceux qui n'avaient quasiment personne à l'intérieur. Mais ils ne sont pas intervenus dans les plus grands collèges électoraux. Le chef de la police catalane, s'il était reconnu coupable de sédition, risque une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison.
Henri, est-ce qu'on a une idée de la suite? On entend dire que lundi, le gouvernement catalan pourrait proclamer l'indépendance de la Catalogne. Est-ce qu'on va vraiment vers ça?
C'est fort probable. Écoutez, on sait que effectivement lundi à 10h, Carles Puigdemont, le président catalan, doit présenter au Parlement régional les résultats du vote de dimanche dernier. C'est après cette prise de parole que les députés séparatistes majoritaires dans cette chambre régionale voteront très certainement cette déclaration unilatérale d'indépendance. Mais évidemment, il ne suffit pas de proclamer l'indépendance pour qu'elle s'applique. On sait qu'elle sera immédiatement annulée par la justice espagnole. Et puis, en l'état actuel des choses, aucun État en Europe ne va reconnaître cette sécession.
Mais est-ce que sur place, on y croit à cette hypothèse de l'indépendance et surtout est-ce que ça inquiète vraiment la population ?
Effectivement, il y a une inquiétude, et pas seulement chez les anti-indépendances d'ailleurs. L'ancien président catalan Artur Mas estime qu'une déclaration unilatérale pourrait effrayer l'Europe et donc être contre-productive. La maire de Barcelone, Ada Colau, ne veut pas en entendre parler. Elle craint une escalade et une réaction démesurée de Madrid avec une suspension de l'autonomie. Et dans la rue, on est préoccupé car cela représente un saut dans le vide. Les entreprises enfin s'inquiètent. Horizon, un puissant groupe de biotechnologie, vient d'annoncer qu'il déplaçait son siège à Madrid. Les banques, La Caixa et Sabadell songent à faire de même. Enfin, ce soir, la Bourse de Madrid enregistre une forte baisse de 3%.
Merci beaucoup, Henri Delaguerre, correspondant d'Europe 1 en direct de Barcelone.
La Cour des comptes vient de rendre un rapport terrible sur l'éducation nationale. Terrible. Système rigide et coûteux et peu efficace. Elle en prend pour son grade sa gestion. Des enseignants notamment, est jugé déplorable.
Oui, des professeurs absents, non remplacés, trop de débutants affectés dans les écoles difficiles et un coût du système éducatif qui s'accroît sans amélioration de sa performance. Le tableau est vraiment très sévère. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Alors, la Cour des comptes distribue les mauvais points. Elle évoque notamment ces profs qui, paraît-il, ne sont pas très chauds pour remplacer au pied levé leurs collègues qui sont absents.
Alors oui, par exemple, si vous demandez à beaucoup de profs, ils vous disent, moi j'ai une classe de 6e, une classe de 4e. Si on me demande au pied levé de remplacer des 5e, j'ai plus bien le programme en tête, je connais pas les élèves, je connais pas leur niveau. Le temps que je fasse connaissance et qu'on entre dans le vif du sujet, l'heure est passée. À quoi ça sert? Le SNES disait d'ailleurs il y a quelques années, quand cette mesure devait être appliquée, qu'il y avait une circulaire, que c'était dénaturer le métier. Donc il y a une vraie résistance.
Alors il y a aussi la question des enseignants débutants. Ça c'est une arlésienne, ça revient régulièrement, mais la Cour des comptes constate qu'ils héritent toujours des postes les plus compliqués.
Oui, d'ailleurs la Cour des comptes sort un chiffre très intéressant. Par rapport à 2011, il y a deux fois plus de jeunes titulaires envoyés dans ces collèges de l'éducation prioritaire, donc des collèges ou des lycées défavorisés. Donc deux fois plus de jeunes, ce qui veut dire que la proportion...
C'est pire qu'avant. Quoi.
Voilà, exactement, ouais. Ça sera jauni. Et du coup, la Cour des comptes fait une proposition. Si, par exemple, on proposait à des profs chevronnés d'aller, une sorte de contrat de 2-3 ans dans un collège de l'éducation prioritaire, on leur garantirait de revenir à leur poste de départ et puis on leur donnerait en plus une prime, une gratification. Ça, ce serait peut-être un moyen de mieux mixer entre jeunes profs et profs plus chevronnés.
Et volontaires, donc. Et puis, Virginie, la Cour des comptes plaide pour une continuité dans le recrutement des profs. Ça aussi, c'est important.
Oui. Alors, moins 80 000 enseignants sous Nicolas Sarkozy, plus 60 000 sous François Hollande. Vous voyez bien qu'il y a des variations énormes. Donc la Cour des comptes dit ça n'est pas possible. Les décisions du ministre, la lubie du ministre qui vient d'arriver, il faut qu'il y ait plus de continuité pour que les étudiants puissent se projeter dans le métier, puissent avoir une vocation, qu'ils aient de la visibilité, tout simplement.
Merci beaucoup Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1.
L'attentat islamiste de la gare Saint-Charles dimanche à Marseille, 5 personnes toujours en garde à vue.
Alors on avait dit dans un premier temps que le tueur qui a poignardé à mort 2 jeunes femmes était un SDF. Eh bien, on découvre aujourd'hui que ce Tunisien de 29 ans, sans papier, avait bel et bien un logement qui a été perquisitionné dans le 3e arrondissement de Marseille, dans un quartier très populaire. Nathalie Chevance, vous avez pu rencontrer ses voisins et visiblement, il habitait là depuis un certain temps.
Oui, et ce qui est troublant, c'est que le nom du tueur de la gare Saint-Charles est parfaitement visible sur l'une des boîtes aux lettres à l'entrée de ce petit immeuble ouvrier où l'on peut louer des studios pour quelques centaines d'euros sans besoin de présenter de garantie. C'est là que la police a perquisitionné pendant plusieurs heures, retrouvé le sac noir d'Ahmed Anachi et saisi plusieurs téléphones sous les yeux de Nadia, l'une de ses voisines.
Hier, on aurait dû être dans un film. Ils ont sorti tout ce qu'il y avait dans la maison. Des habits, des baskets, les shampoings, ils ont pris les gels, ils ont tout pris.
Vous avez vu un sac noir?
Oui, c'est un gros sac noir, mais dedans, c'était des habits qu'il y avait. Ils ont sorti les puces de téléphone, parce que j'ai signé, et je voyais ce qui a marqué sur l'enveloppe. Plusieurs puces de téléphone.
Ça, il n'y avait pas d'armes?
Ça, j'ai pas vu, ça, non.
Ahmed Anachi vivait donc dans un petit studio de 10 mètres carrés depuis 2-3 mois. Il recevait parfois, sans se faire remarquer. C'est ce qu'affirme Francis, l'un de ses voisins.
Je l'avais aperçu une fois, oui. Bonjour, bonsoir, on n'est pas méchant. Toujours bien rasé, propre, bien habillé. Police, je n'aurais jamais pensé que c'est une personne qui aurait fait du mal.
Pas de signe de radicalisation, une version qui semble confirmer ce que disent de lui ses parents en Tunisie, qui décrivent le double meurtrier de la gare Saint-Charles comme un drogué qui se fichait de la religion.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille.
À suivre, Donald Trump a été odieux hier à Porto Rico. Comment sera-t-il à Las Vegas?
Christophe
Andelatte sur Europe 1. Christophe Andelatte sur Europe 1.
La suite du journal avec Isabelle Millet et l'enquête sur le massacre de Las Vegas où l'on attend Donald Trump dans les heures qui viennent. La compagne du tueur Isabelle est entendue par le FBI depuis plusieurs heures.
Elle est de retour des Philippines où elle se trouvait lors de la tuerie et les enquêteurs ont beaucoup de questions à lui poser, notamment sur ce fameux virement de 100 000 dollars qu'elle aurait reçu de la part de son compagnon. On retrouve tout de suite Xavier Yvon qui est le correspondant d'Europe 1 et qui est à Las Vegas. Xavier, on a par ailleurs ce soir de nouvelles informations concernant la santé mentale du tueur Stephen Paddock.
Oui, c'est la grande chaîne ABC qui les donne en citant une source au sein de l'enquête. Ces derniers mois, la santé mentale de Stephen Paddock était en train de se détériorer. Il avait perdu beaucoup de poids, négligeait de plus en plus son apparence physique et il était obsédé par l'ex-mari de sa compagne, Marilou Denley. Elle est arrivée hier soir aux États-Unis et les enquêteurs espèrent qu'elle leur apportera des réponses. Selon ses proches, elle a la conscience tranquille. C'est Stephen Paddock qui l'aurait envoyé aux Philippines, son pays d'origine, pour qu'elle aille voir sa famille une dizaine de jours avant le massacre. Le tireur avait aussi passé ces derniers mois à acquérir son arsenal. En un an, il avait acheté 33 armes.
Alors on le disait, Xavier, Donald Trump est attendu sur place dans un peu plus d'une heure. Maintenant, il va rencontrer les personnels de santé, les policiers, les victimes. Des victimes dont on découvre petit à petit l'identité.
Oui, 58 personnes venues de tout le pays, unies par l'amour de la musique country et l'envie de faire la fête. Sonny et Heather Melton, par exemple, un chirurgien et une infirmière qui fêtaient leur premier anniversaire de mariage. Ils s'aimaient tellement qu'ils s'étaient débrouillés pour travailler dans la même salle d'opération chez eux dans le Tennessee. Quand les balles ont commencé à pleuvoir, lui a été touché dans le dos. Elle a tenté de le sauver avec un massage cardiaque en vain. Il est mort à l'hôpital. Il y avait aussi un vétéran d'Afghanistan, une institutrice de Californie, un étudiant de 20 ans ou cette mère de 4 enfants. Rocío Guillén, elle avait donné naissance à son dernier fils il y a 6 semaines. Le Washington Post a consacré une page entière en guise d'éditorial avec la liste de ses noms et le journal y a ajouté ceux de toutes les victimes de fusillades de masse depuis celle du lycée de Columbine il y a 18 ans. Se souvenir des victimes plutôt que des bourreaux avec cette question, quand déciderons-nous qu'il y en a assez ?
Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 à Las Vegas.
Emmanuel Macron est en déplacement en Corrèze aujourd'hui, attendu de pied ferme par les salariés de GMS venus du département voisin de la Creuse.
Des employés de l'équipementier de la souterraine qui, vous le savez, a été placé en liquidation judiciaire fin juin, partiellement repris par un industriel français concurrent, GMD. Des salariés en tout cas mécontents de leur sort et qui souhaitaient rencontrer le président mais qui en ont été empêchés par les forces de l'ordre, Martin Fenot.
Oui, le président est alors au bout d'une petite route. Là où il se trouve, les ouvriers aperçoivent le bâtiment qu'ils visitent. Mais des CRS les empêchent d'avancer. Les élus municipaux qui marchent en tête du cortège tentent de négocier, forcent le passage et c'est la bousculade.
Nous sommes des maires. Nous avons demandé une entrevue avec Monsieur Macron et nous sommes gazés. Ça me brûle de partout. On a une douzaine de familles, nous, qui sont impactées. Une douzaine de familles dans un petit village de plus de 1000 habitants. Imaginez ce que ça représente. On n'a rien, c'est un désert. Il n'y a pas de travail. Ils ne trouveront pas de travail sur place. Monsieur Macron, entendez.
La centaine de manifestants recule. Un élu est menotté. Un ouvrier allongé sur le bitume, entouré par ses collègues.
Oh ben, y a un gars qui est blessé. Quel genou tordu, parce qu'on s'est retrouvé coincé sous les jambes. Bravo, monsieur Macron. Hein. On n'est pas là pour casser. On est venu là pour essayer de voir le président. Le président, c'est le président de tous les Français. Il n'y a pas lieu qu'ils reçoivent certains et pas d'autres.
Alors les ouvriers restent sur place, mais le président ne vient pas. Ils souhaitaient parler du manque de formation, d'emploi dans leur région, du devenir de leur entreprise. Ils vont repartir en bus, sans même avoir aperçu le cortège présidentiel.
Martin Fenot à Égletons en Corrèze pour Europe 1.
Une info pour Bugs Bunny, s'il nous écoute. Il y a des carottes devant le ministère de la Santé à Paris. Pourtant, ce ne sont pas des agriculteurs qui ont manifesté.
Eh ben non, parce que la carotte, c'est le symbole des buralistes. Et ils sont en colère en ce moment, les buralistes, contre la perspective de la hausse de 3 euros en 3 ans du prix du paquet de cigarettes. Ils estiment que ça va provoquer l'explosion du marché parallèle et la fermeture de 5000 débitants de tabac.
La fin d'une polémique, le drapeau européen va rester dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale aux côtés du drapeau tricolore.
Ce sont les députés de la France insoumise qui voulaient son retrait. Ils avaient même déposé un amendement devant la commission des lois, amendement qui n'a recueilli que 2 voix. Et puis on apprenait hier que Raquel Garrido, la porte-parole de la France insoumise, justement, devait 32 215 euros à la caisse de retraite des avocats. Ça fait 6 ans qu'elle n'a pas payé ses cotisations sociales. Et bien apparemment, elle a trouvé un accord, un échéancier pour régulariser ses arriérés de paiement.
On en est soulagé. On les appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Ils sont de nouveau dans le collimateur de l'Europe.
Et en l'occurrence, cette fois, c'est Amazon et Apple. La Commission européenne dénonce les montages fiscaux des géants américains du net, avec dans son viseur donc les pratiques d'Amazon au Luxembourg et celles d'Apple en Irlande. Bonsoir Isabelle Horry.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. Une nouvelle fois, l'Europe tape du poing sur la table et une nouvelle fois, des centaines de millions d'euros sont en cause.
Et oui, la femme qui fait trembler les GAFA a encore frappé. La Danoise Margrethe Vestager, qui est la puissante commissaire à la concurrence, s'en est d'abord pris à Amazon aujourd'hui. Elle impose à l'entreprise de commerce en ligne 250 millions d'euros de redressement fiscal. Elle dénonce en fait l'accord fiscal trop généreux conclu avec le Luxembourg. Écoutez.
Cet accord fiscal a permis à Amazon d'échapper à l'impôt sur les trois quarts des bénéfices réalisés sur ses ventes en Europe. Si vous comparez avec ce que doit payer une entreprise locale au Luxembourg, cette entreprise paiera quatre fois plus d'impôts qu'Amazon.
Et cette concurrence fiscale touche aussi la Fnac ou Carrefour par exemple, hein, car ces concurrents d'Amazon, eux, ils payent des impôts plein pot. Alors ça, c'était l'acte 1 de la conférence de presse du jour. L'acte 2, lui, il concernait donc Apple et l'Irlande. Dublin n'a toujours pas réclamé les fameux 13 milliards d'impôts qu'Apple lui doit depuis un an. Alors pour motiver les Irlandais, Margrethe Vestager, toujours elle, a tout simplement décidé de les traîner en justice. Voilà, on sent que l'Europe est vraiment partie en guerre contre les géants du net. Tous les coups sont permis, les accusés de concurrence déloyale, envisager un nouveau type de fiscalité pour elles. Hein, la France pousse pour ça. C'est vraiment un titanesque bras de fer qui se déroule sous nos yeux.
Eh bien, on verra si cette fois ça marche. Merci en tout cas Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles.
Et puis en football, encore un forfait chez les Bleus.
Levin Kurzawa ne pourra pas jouer contre la Bulgarie samedi. Et c'est un match important hein, puisqu'il compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Kurzawa s'est fait une entorse au ligament du genou. Bonsoir Julien Pierce.
Bonsoir Isabelle.
Et ça n'arrange pas du tout les affaires de Didier Deschamps qui va être obligé de revoir ses plans défensifs.
Oui, parce qu'après Laurent Koscielny, voilà un autre défenseur potentiellement titulaire obligé de déclarer forfait. Ils sont trois au total, Koscielny et Kurzawa, mais aussi Benjamin Mendy, trois joueurs qui évoluent à gauche de la défense. C'est donc la moitié de ce secteur que Didier Deschamps doit recomposer. Loin d'être idéal, d'autant que les remplaçants choisis par le staff offrent très peu de garanties. C'est le cas surtout des latéraux. Jordan Amavi, le nouvel appelé, n'a aucune expérience à ce niveau. Il n'a déjà jamais joué en bleu. Quant à Lucas Digne, il ne joue quasiment pas au FC Barcelone. Seulement 93 minutes depuis le début de la saison. C'est peu, très peu en tout cas, pas suffisant
ça
pour
fait
être
rêver,
compétitif
tout ce que vous nous racontez.
Dans une rencontre qui s'annonce très intense. Parce que en plus, la Bulgarie, attention, c'est loin d'être une équipe en bois à domicile. C'est 4 victoires en automne match, 2-0 face aux Pays-Bas, 3-2 contre la Suède. Bref, les Bulgares sont intraitables sur leur terre, même face à des nations pourtant bien plus fortes sur le papier. À cela rajouter côté français, les forfaits de Paul Pogba et d'Ousmane Dembélé. Et vous avez tous les ingrédients pour un match piège.
Ça fait beaucoup. Et en plus, ça se joue à Sofia, samedi, Bulgarie-France. À 20h45. Merci Julien.
Merci Julien Pierce, merci Isabelle Millet. Caroline Gott, la directrice de France 2, réagit pour la première fois dans un instant au clash qui a opposé samedi dernier dans On n'est pas couché, Christine Angot à Sandrine Rousseau.
On de la traconte sur Europe 1.
On de la traconte sur Europe 1.
Bonsoir Caroline Gott.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale de France 2 et à ce jour vous n'avez pas réagi, pas plus que votre présidente Delphine Ernotte, au clash extrêmement violent qui a opposé samedi dernier dans On n'est pas couché l'écrivain, j'insiste sur écrivain puisqu'elle veut pas qu'on dise écrivaine, Christine Angot et Sandrine Rousseau qui est l'une des plaignantes de l'affaire Denis Baupin qui était mon invité il y a une demi-heure de cela. On peut résumer cet affrontement entre Christine Angot et Sandrine Rousseau à, au fond, cette question, fallait-il la faire pleurer et l'humilier sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec elle alors même qu'elle se plaint d'agressions sexuelles. 98 717 personnes sur le site change.org vous demandent, à vous France 2, des excuses.
Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que, moi, à titre personnel et en tant évidemment que directrice exécutive de France 2, bah, je déplore bien sûr le malaise qui a été suscité dans le public, hein, qui est manifeste par cette séquence qu'on a donc diffusée samedi dernier dans N'est pas couché et qui a provoqué en effet un émoi important. Alors voilà, il y a des gens qui ont écrit, j'ai pas entendu le site dont vous parlez, mais
change.org.
D'abord, ils ont aussi, on a eu beaucoup de téléspectateurs qui se sont adressés à nous via le médiateur. Donc nous, on a notre médiateur interne à France Télévisions. Donc nous, on a réagi avec le médiateur. Et franchement, je comprends qu'une partie du public soit en colère. Alors après, on va revenir sur, si vous voulez, sur cette séquence précisément. Alors,
est-ce que vous l'avez compris, cette séquence? Parce que c'est l'une des difficultés à laquelle, évidemment, a été confronté Laurent Ruquier. C'est qu'il faut comprendre instantanément ce qui est en train de se passer. Et instantanément, on ne comprend pas.
Non, vous avez raison. D'abord, je pense que la plupart des gens ont probablement vu l'extrait, finalement, qui passe tout à fait en fin d'émission. Parce que ce qu'il faut dire d'abord, et qui était très important pour nous, c'est qu'on avait vraiment choisi d'inviter Sandrine Rousseau, la production, la chaîne a choisi d'inviter Sandrine avec son livre Parler, qui est un livre important, sur un sujet délicat mais essentiel, dont il faut parler. En général, on n'en parle pas, et ça, on le déplore. Et avant de revenir sur cette altercation, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, ce qui nous tient à cœur, c'est d'abord de dire à quel point on comprend l'émoi du public, d'une partie du public, et deuxièmement, qu'on ne voudrait pas non plus que, évidemment, tout ce que cela suscite masque le travail que nous faisons actuellement, déjà à France 2 et à France Télévisions, contre les violences faites aux femmes. Le 11 octobre prochain, on consacre une journée entière qui est dédiée à la lutte contre le harcèlement sexuel au travail, avec en particulier une fiction harcelée qui sera diffusée, suivie d'un documentaire qui est extrêmement fort.
On ne doute pas que France Télévisions soit favorable à la lutte contre le harcèlement.
C'était important que je le redise, parce que c'est vrai que dans les 40 minutes... finalement, où Sandrine Rousseau a pu parler de son livre, il y a une première partie, on va dire, qui s'est bien passée, évidemment, qui forcément a été moins relayée par le public. Et puis, en effet, il y a eu une deuxième partie qui est beaucoup explosive, plus compliquée, et qui, en effet, émotionnellement, a été tout à fait explosive.
Je vais vous poser la question comme ça, je ne vous demande pas la tête de Christine Angot, je vous pose simplement la question, est-ce qu'elle reste chroniqueur dans On n'est pas couché? Elle nous met un peu, nous qui la regardons, mal à l'aise. On la trouve un peu trop impliquée dans cette émission, pas assez professionnelle.
Alors, en l'occurrence, sur ce sujet particulier, c'est ça qui est très très délicat, ce sont deux femmes qui se parlent et deux femmes qui ont subi chacune des violences sexuelles. Donc, c'est vrai que c'est un cadre un petit peu particulier. Et chacune réagit avec...
Beaucoup d'émotivité.
Alors, beaucoup d'émotivité, mais ça, on peut le comprendre.
Mais Sandrine,
c'est un
Sandrine,
des sujets,
voilà. Sandrine Rousseau, on peut comprendre. Finalement, Christine Angot, elle est professionnelle, là. Elle est chroniqueuse professionnelle. Et le professionnel doit gérer son émotivité.
Je pense que sur ce sujet particulier, elle parle d'un autre point de vue que celui de Sandrine Rousseau. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, elle vient raconter à la fois une expérience personnelle, qui est une expérience extrêmement douloureuse, elle vient aussi porter un combat, et on voit qu'elle est extrêmement émue et que c'est très difficile d'en parler. Christine Angot, elle parle d'un autre point de vue, qui est à la fois un point de vue d'écrivain, comment doit-on parler des violences faites aux femmes? Et je pense que c'est cette incompréhension qui provoque cette altercation.
Et va-t-elle rester chroniqueuse à On n'est pas couché?
Oui, bien sûr, elle va rester chroniqueuse à On n'est pas couché.
Est-ce que Laurent Ruquier a bien géré la séquence?
Alors, Laurent est revenu à la fin, parce que ça dépend, je parle de ça à la fin, parce que ça dépend comment ont été découpés, puisque la plupart, d'ailleurs c'est un souci, la plupart des téléspectateurs ou des webnotes finalement qui ont vu la séquence ont vu une séquence plus ou moins montée et tronquée.
Oui. Enfin, ça, c'est du fait de votre production, hein. C'est bien Catherine Barma qui monte la séquence et qui supprime la sortie.
Non, je parle sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux. Il y a encore plus montée et plus réduite.
Voilà, finalement. Exactement. Donc, les téléspectateurs ou les webnotes n'ont pas nécessairement vu l'intervention de Laurent Ruquier qui arrive en toute fin d'émission et où, il essaye de dire que, enfin, il le dit d'ailleurs, il essaye de repositionner le débat et de dire que finalement, c'est un débat qui s'est mal passé.
Il y a eu énormément d'émotions et on voit qu'il y avait énormément de difficultés à parler du débat. Je pense que sur le moment où il était sur le plateau, l'urgence était finalement de faire retomber cette émotion et de reparler du débat. Alors après, on peut avoir un sentiment qu'il n'a pas assez défendu Sandrine Rousseau, mais je pense que à ce moment-là, ce qui était important, s'il comprend bien ce qui se passe, non, je pense qu'à ce moment-là, ce qui a paru important, c'était de ramener, on va dire, du calme et de faire redescendre la tension. Et c'est probablement pour ça qu'on a cette impression-là.
La morale de cette histoire, Caroline Gott, pour la directrice de France 2.
La morale de cette histoire, c'est que c'est un débat, parce que ça reste un débat, même si c'est mal passé. Je vous dis, je regrette qu'il se soit aussi mal passé. Maintenant, on a quand même souhaité le conserver, parce que c'est une émission qui est enregistrée, vous le savez. On aurait pu décider de le couper. Il y avait pas mal de journalistes qui étaient sur le plateau, puisque c'est un plateau où il y a énormément de personnes. Nous, on s'est dit que même si ça s'était mal passé, il y avait quand même 40 minutes d'échange et finalement quelques minutes d'altercation, même si elles sont extrêmement douloureuses et désagréables pour une partie du public, et qu'on souhaitait quand même ce débat puisse être vu et ne puisse pas être raconté
et fantasmé. Merci Caroline Gott d'être passée ce soir par le plateau de Ondelat raconte. Dans un instant, le rappel des titres. Et une femme de conviction, c'est la première fois qu'elle s'exprime. Julie Coudry est la fondatrice de la start-up Jobmaker et c'est l'ancienne présidente de la Confédération étudiante. C'est elle qui était derrière les manifs du CPE.
Ondelat raconte sur Europe 1. Ondelat raconte sur Europe 1.
Il est 6h31, vous êtes au cœur d'Ondelat raconte et voici le légendaire rappel des titres de 6h31. Et Isabelle Millet.
La proclamation d'indépendance de la Catalogne n'est qu'une question de jour, c'est ce qu'affirme en tout cas le chef de l'exécutif catalan qui évoque même la date de lundi prochain. Donald Trump à Las Vegas ce soir alors que les enquêteurs sont en train d'interroger la compagne du tueur qui était aux Philippines au moment du massacre. Opération escargot de buralistes aujourd'hui pour protester contre la hausse programmée de 3 euros en 3 ans du prix du paquet de cigarettes. Les routiers, eux, attendent la réponse du gouvernement. Syndicats et patronats se sont mis d'accord pour sécuriser les primes diverses et les frais de route des chauffeurs menacés par la réforme du Code du travail. Mais pour l'heure, la CFTC et la CFDT menacent toujours de faire grève mardi prochain. Un mot du temps. Demain, c'est le retour de la pluie sur la moitié nord. Il fera encore très beau en revanche dans le sud et même carrément estival. 30 degrés à Perpignan, 26 à Marseille, 25 à Toulouse et à Lyon, mais seulement 16 à Lille et 18 dans la capitale.
Merci Isabelle Millet. Elle intègre aujourd'hui la petite équipe d'hommes et de femmes de conviction qui se succède tous les jours à ce micro à 6h30. Bonsoir Julie Coudry.
Bonsoir.
Alors on vous a entendu récemment dans cette émission où vous étiez invitée, vous êtes passée d'invitée à femme de conviction parce que je vous ai découvert à cette occasion-là. Vous avez été la présidente de la Confédération étudiante, vous avez mené notamment cette révolte contre le CPE et c'est ce que je vous avais invité à raconter il y a quelques semaines dans l'émission. Et vous êtes la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Jobmaker, c'est juste pour faire un peu connaissance avec vous avant de vous écouter. Qu'est-ce que c'est Jobmaker ?
Jobmaker, en fait, c'est un coach de carrière digital. Donc, vous allez me dire, c'est un peu vague.
Ça se passe sur Internet, donc.
Ça se passe sur Internet. On peut appeler ça un robot, si on veut. Et en fait, c'est une application qui va vous accompagner à passer d'une étape professionnelle à la suivante.
À changer de métier, quoi.
À changer de poste, à changer de job. En tout cas, qui va faire un travail d'accompagnement. Jusqu'ici, on pensait que c'était réservé à un humain en chair et en os. Eh ben, progrès de la technologie. On a passé 2 années de R&D à
recherche
étudier,
et développement.
De recherche et
je
développement.
Traduis.
À étudier ce que faisaient les consultants qui accompagnaient des personnes pour qu'ils passent d'une étape professionnelle à l'autre. Et on en a fait une application digitale, ce qui permet de rendre ce dispositif d'accompagnement accessible à tous.
Puisqu'il est gratuit.
Non, il n'est pas gratuit. On le vend aux entreprises. C'est beaucoup moins cher quand c'est un robot digital que quand c'est un humain.
Jobmaker. Alors, vous êtes venu exprimer une idée, défendre une conviction, et ça concerne une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui n'est pas encore tenue, mais dont on nous dit qu'elle est sur le point d'être tenue, qui est l'ouverture des droits au chômage aux gens qui démissionnent. Et c'est de ça dont vous voulez parler. Je vous écoute. Et quelqu'un va vous répondre. Vous connaissez le principe quand vous aurez terminé.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est important et je suis un petit peu mécontente de voir que aujourd'hui, ben, et c'est normal, les organisations syndicales sont très réactives aux différentes réformes sur le travail, mais finalement, quand on regarde ce qui se passe, ils se positionnent essentiellement en contre, en réactif, en l'occurrence des ordonnances travail qui ont déjà été proposées, et on oublie à l'occasion de ces mobilisations, eh bien, les deux autres volets de la réforme qui sont à venir, qui sont la réforme de l'UNEDIC et la réforme de la formation. C'est aussi important que la réforme du Code du travail pour envisager le travail.
Et donc ce droit au chômage qui serait ouvert aux gens qui démissionnent, ce qui serait une vraie révolution.
Eh bien, moi, en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le chômage, tel qu'il est pensé aujourd'hui, il date des années 30. Il date du 20e siècle, pardon, de la révolution industrielle. On travaillait toute sa vie dans la même entreprise. Et en fait, le système, c'était de dire, on travaille, on cotise, on acquiert des droits. Et ces droits nous permettent d'assurer un éventuel sinistre, ce sinistre étant le licenciement individuel.
Un accident de carrière, quoi.
Voilà, un accident de carrière individuel ou collectif.
Et vous voyez pas les choses comme ça, vous ?
Bah, il se trouve qu'aujourd'hui, les choses ne fonctionnent plus du tout de la même façon. On passe pas 40 ans de sa vie dans la même entreprise. L'entre-deux jobs n'est plus un accident. C'est devenu quelque chose qui est récurrent dans une carrière. La norme, c'est quoi ? C'est l'impermanence de la relation entre le travailleur et l'entreprise. Quand une entreprise recrute quelqu'un, elle sait qu'à un moment donné, la collaboration prendra fin. Les jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail auront 10 à 13 transitions dans leur parcours et donc une dizaine de périodes d'entre-deux jobs. Donc en fait, on doit complètement repenser finalement qu'est-ce que doit être le chômage, les cibles, les conditions d'attribution
dans
un contexte où on vivra une dizaine de transitions. Et moi, je pense que c'est un combat vraiment du siècle, j'ai pas peur de le dire, pour les syndicats, pour les entreprises, pour les gouvernements, de faire en sorte que les personnes ne vivent plus des situations dramatiques quand elles sont entre deux emplois, parce que ça ne sera plus une exception, mais ce sera quelque chose de récurrent, et finalement, qu'ils aient plus de raison d'avoir peur d'être dans cette période de transition professionnelle.
Donc vous êtes favorable à cette promesse d'Emmanuel Macron, dont on verra si elle est tenue ou pas, parce que elle est évaluée par le journal Les Échos à 14 milliards la première année.
Mais je crois qu'il faut complètement, il faut mettre la pression aujourd'hui pour complètement réinventer ce qu'on appelle aujourd'hui chômage, pour le transformer en une expérience positive, et ça passe notamment par ça.
Alors, quelqu'un va réagir, c'est une avocate fiscaliste qui s'appelle Virginie Pradel et qui est avec nous en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez parler directement à Julie Coudry, la saluer, lui répondre, vous avez 2 minutes 30.
Oui, bonjour madame. J'ai bien écouté vos arguments. Je répondrai ceci. Aujourd'hui, les salariés qui démissionnent sont indemnisés dans certaines circonstances, savoir quand ils démissionnent pour suivre leur conjoint ou lorsqu'ils sont harcelés moralement. Enfin, ce qui est considéré comme des motifs légitimes. Il faut savoir que la réforme d'Emmanuel Macron consiste à nationaliser l'assurance chômage, ce qui implique que désormais l'assurance chômage sera financée par l'ensemble des contribuables. Donc les 14 milliards qui pourraient résulter de l'ouverture aux salariés démissionnaires, à cela s'ajoute la dette de 38 milliards qui existe déjà, hein, parce qu'il y a une dette de 38 milliards qui va être transférée aux contribuables
du système de l'assurance chômage.
Exactement, voilà, c'est tous les contribuables via la hausse de la CSG qui vont contribuer, qui vont financer l'assurance chômage.
En gros, vous nous dites ça coûte une blinde, quoi.
Ça coûte une blinde. Moi, je pense que les contribuables, l'ensemble de la société doit financer le chômage qui est subi par les salariés, ça veut dire ceux qui perdent leur emploi alors que c'est pas leur faute, hein, clairement, pour m'exprimer simplement, mais les gens qui veulent prendre un congé sabbatique, qui ont des velléités entrepreneuriales, je ne vois pas pourquoi la société devrait les indemniser. Enfin, il faut quand même rester, il faut responsabiliser les gens.
Julie Coudry va réagir à cet argument.
Oui, vous parlez de situation subie, mais la situation subie que vivent aujourd'hui des millions de personnes, c'est de ne pas pouvoir quitter un emploi dans lequel ils ne sont pas bien, parce qu'ils n'ont pas de revenus qui permettent d'assurer la transition le temps de trouver un autre job. Et je peux vous assurer que c'est pas pour prendre des vacances ou pour simplement créer une entreprise. Je crois que tous les auditeurs doivent connaître ces situations de gens qui sont mal dans leur job et qui n'ont pas les moyens de le quitter au point de s'en pourrir la vie, celui de sa famille, celui de son conjoint. Et je crois que c'est profondément une vision moderne de dire que quand on cotise et qu'on a des droits, on peut en jouir, pas simplement quand on subit son sort, mais y compris quand on le choisit.
Merci Julie Coudry, merci à vous Maître Pradel qui était à l'autre bout du fil. Vous venez de nous ouvrir la réflexion sur un débat dont on reparlera bien évidemment dans les semaines et les mois qui viennent, pour autant que cette promesse soit un jour tenue, parce que 14 milliards d'euros la première année et 5 milliards en année pleine, on va pas les trouver sous le pied d'un cheval. Merci Julie Coudry.
Merci.
Merci à vous. Dans un instant, le journal du monde, Sophie Larmoyer, et juste derrière la rigolade avec les fourberies de Benjamin Mulin. A tout de suite. Merci.
On de la traconte sur Europe 1. On de la traconte sur Europe 1.
Le journal du monde, c'est tous les soirs vers 7h moins le quart et c'est l'occasion de découvrir d'autres informations, des histoires qui nous viennent d'ailleurs. Et c'est présenté par Sophie Larmoyer. Bonsoir à vous.
Bonsoir Christophe.
Deux histoires tous les soirs. La première aujourd'hui va nous amener au sud du continent africain, au Zimbabwe, où un journaliste a été assigné en justice pour avoir écrit un article qui a froissé le pouvoir. Quel est le sujet de cet article ?
Ça a surtout froissé la femme du pouvoir, si D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai nommé Grace Mugabe, 53 ans, épouse du président Robert Mugabe, 93 ans, dont 37 à la tête du pays. Kenneth Nyangi, c'est le nom de ce journaliste du quotidien privé Newsday, a fait 18 heures de garde à vue lundi et mardi. Il a été inculpé pour diffamation criminelle et il risque quand même 6 mois de prison.
Ah, ouh là là, qu'est-ce qu'il a écrit dans cet article ?
Alors, ce qu'il a vu, tout simplement, pendant le week-end, un député du parti au pouvoir distribuant au nom de la première dame des vêtements d'occasion. Alors évidemment, le titre n'a pas dû plaire, ça donnait « Grâce donne des sous-vêtements usagés ». On m'a dit que la plupart de vos slips étaient en mauvais état, alors venez chercher ce qui vous a été alloué, disait-il. Et le journaliste a rapporté évidemment les réactions choquées de gens qui disaient qu'ils avaient plutôt besoin de job et de quoi mettre à manger sur la table.
C'est l'occasion de parler du Zimbabwe, il y a une vraie crise en ce moment au Zimbabwe.
Oui, le pays est carrément en cessation de paiement, asphyxié financièrement. Des magasins de la capitale se retrouvent en rupture de stock de produits de base, comme l'huile et le sucre. La semaine dernière, une manifestation contre le retour des hausses de prix justement était dispersée à coups de gaz lacrymogène. Et il y a 10 jours, le pasteur et opposant Ewan Mawarir avait été interpellé après avoir mis en ligne une vidéo qui montrait des files d'attente aux stations-service, aux stations-essence.
Et pendant ce temps-là, le clan Mugabe se régale.
Exactement, il vit la belle vie, ses frasques s'étalent dans les journaux. Par exemple, avant de donner son lot de vêtements d'occasion, Grace Mugabe s'est acheté la semaine dernière cash, hein, $500,000, une Rolls blindée qu'elle laisse en Afrique du Sud pour ses séjours là-bas. En août, elle avait fait les gros titres en agressant une jeune mannequin dans un hôtel en Afrique du Sud. Mais le message qui est envoyé à la presse, c'est bien qu'on prend des risques à critiquer Grace Mugabe. La dame voudrait se refaire une beauté avant, dit-on, de succéder l'an prochain à son vieux mari.
Ce sont rares, hein, les occasions de parler du Zimbabwe à la radio. Je suis content qu'on l'ait saisi. Deuxième histoire de ce journal du monde, on va au Myanmar, donc la Birmanie.
Exactement.
Il faut se souvenir de ça. Là. Il n'y a que nous qui appelons la Birmanie.
C'est la junte au pouvoir qui a appelé ça Myanmar.
Voilà, pour évoquer une reine de beauté déchue de son titre.
Et il s'agit de la Birmane Choe Ensi, couronnée Miss Univers Myanmar, mais elle ne participera pas au concours mondial. Carole Izou nous raconte cette histoire depuis Bangkok. Bonsoir Carole, les organisateurs ont donc décidé de lui retirer son titre carrément. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour mériter ça ?
Bonsoir à tous. Eh bien, Choe Ensi avait posté une vidéo sur son compte Facebook, une vidéo explicite sur ce conflit sanglant qui oppose les bouddhistes de l'ethnie Rakhine et les musulmans Rohingyas. Elle accuse la presse internationale de soutenir systématiquement les Rohingyas sans parler de leurs actions terroristes. Alors, c'est vrai que la plupart des reportages diffusés sur la question ont traité de l'angle des réfugiés Rohingyas, mais d'abord parce que la crise humanitaire est gigantesque et puis surtout parce que les journalistes ont eu accès aux camps de réfugiés au Bangladesh, mais pas à la zone de conflit en Birmanie qui est bouclée par l'armée. Impossible donc de vérifier ces allégations.
Donc cette histoire illustre au fond la guerre d'information qui a lieu en ce moment en Birmanie.
Oui, c'est étonnant. On se croirait parfois revenu au temps de la dictature militaire. Les médias birmans parlent d'une seule voix. Ils ne disent littéralement pas un mot des réfugiés, n'emploient pas le terme de Rohingya d'ailleurs, mais seulement celui de terroristes bengalis. Ils se sentent assiégés par la presse internationale.
Et cette histoire met en évidence le rôle des réseaux sociaux dans ce conflit.
Oui, vous savez, les Birmans sont complètement accros à Facebook. Ils sont passés du jour au lendemain d'un pays totalement fermé, sans télévision ni radio de l'extérieur, à un déferlement d'infos sur les smartphones. Il n'y a aucune culture du débat ni de distance par rapport aux informations. Et donc les réseaux birmans pullulent de trolls qui passent leur vie à publier de fausses informations, parfois sur les bouddhistes, mais essentiellement sur les musulmans. Et le résultat, eh bien, c'est la haine attisée de part et d'autre.
Merci à vous Carole Izou, voisine de la Birmanie, puisque vous êtes basée à Bangkok. Deux informations en bref. Et d'abord, l'Université de Montréal qui fait de la road tap, Sophie Armoyer.
Sur son site, depuis 3 semaines, on peut lire « Et si vous veniez à Montréal cet hiver ?» Suit l'argumentaire suivant. « Lycéen français, c'est le moment de découvrir les possibilités qu'offre un système universitaire différent qui s'adapte à la situation de chaque étudiant. C'est une façon même pas déguisée de s'adresser aux 3729 bacheliers que le système APB a laissé sur le carreau en France sans affectation de fac. Mais il faut faire vite, hein, maintenant ils ont seulement jusqu'à dimanche pour candidater à la session d'hiver de l'Université de Montréal, début des cours, janvier prochain.
Et bah même si on a été sélectionné par APB, on peut le faire.
Oui.
Bon. Un petit dérapage incontrôlé de Boris Johnson, oui. Donc c'est en Angleterre.
Ça. Absolument, le ministre britannique des Affaires étrangères s'exprimait hier soir devant le congrès de sa famille politique, les conservateurs, et il voulait dire que des entreprises britanniques avaient l'intention d'investir dans la ville de Sirte pour en faire le prochain Dubaï. Alors c'est en Libye, hein, où vous savez, les milices font la loi depuis la chute de Kadhafi.
Tout le monde veut faire Dubaï. Hein.
Ouais. Ben alors à Sirte, a-t-il expliqué, il y a le sable blanc, la beauté de la mer et de jeunes habitants brillants, mais, a dit Boris Johnson, il leur faut d'abord se débarrasser des cadavres. Et Boris a ri, mais pas son auditoire, plutôt très mal à l'aise.
Ça aurait pu être du Donald Trump,
oui,
mettons.
Mais d'ailleurs, hein, il se ressemble
mais
un peu.
Mais c'est du Boris Johnson.
Chevelure.
Ouais. Ne vous méfiez pas des blonds, néanmoins. À tout de suite pour Benjamin Muller et ses fourberies.
On de la traconte sur Europe 1. On de la traconte sur Europe 1.
Benjamin Muller est un vilain rapporteur. Bonjour,
je suis
Benjamin
payé
Muller.
Pour ça. Bonsoir,
oui, vous êtes payé pour ça.
Ça va,
vous écoutez les autres et vous venez au rapport tous les soirs. Alors, aujourd'hui.
Oh, j'ai entendu une colère. Oh, une grosse colère de Jean-Jacques Bourdin sur RMC ce matin. Il devait recevoir Jeannette Bougrabe, qui est l'ancienne secrétaire d'État. Sauf que Jeannette n'est jamais arrivée. Alors Jean-Jacques a été transparent parce que oui, il est comme ça, Jean-Jacques.
Jeannette Bougrabe devait être notre invitée. Plus de nouvelles. Elle a disparu. Je dis franchement les choses. Elle était invitée. Soi-disant, elle était dans un taxi pour venir nous rejoindre, puis elle a disparu de la circulation.
Bon, lançons un avis de recherche.
Lançons un avis de recherche, oui, mais enfin, elle ne sera plus jamais invitée, je vous le dis tout de suite.
Ouh, pas content, Jean-Jacques. Surtout que quand Jean-Jacques colère, ça monte doucement, mais sûrement, là, c'est bien monté quand même.
Quand on est dans la vie, on est sérieux. On n'est pas sérieux. Bon, elle ne l'est pas, tant pis pour elle. On n'entendra plus jamais parler de Jeannette Bougrabe sur l'antenne d'RMC.
Voilà, le verdict est tombé. Jeannette Bougrabe est coupable. Fin de l'affaire. Sauf que Jeannette Bougrabe était ensuite, en fin de matinée, invitée d'LCI cette fois. Elle est donc revenue sur l'épisode.
Je suis une maman célibataire. J'ai vu ma petite à 7h du matin. Le taxi qui m'avait commandé n'était pas là. Je prends ma fille, on commande un taxi, on est dans les bouchons. On arrive à 8h moins le 20, on nous fait attendre, on nous dit que c'est pas possible, etc. Et ensuite, je me suis fait pourrir à l'antenne par Monsieur Bourdin alors que j'étais dans les locaux. Et...
Elle était dans les locaux. Aïe, aïe, aïe. Si elle dit vrai, j'aimerais pas être l'assistante Bourdin qui a oublié de le prévenir.
Bon, prenons un peu de hauteur. Maintenant, vous avez entendu parler d'avenir aujourd'hui. À quoi notre avenir va-t-il ressembler ?
Discours très fort du ministre Nicolas Hulot diffusé sur la chaîne parlementaire. Discours pour présenter la première loi qu'il veut faire voter, celle sur la transition énergétique.
Il y a quelque temps, un ami africain me faisait remarquer que quand les hommes sont passés de l'âge de pierre à l'âge de fer, ça n'était pas parce qu'il n'y avait plus de pierre, c'est parce que c'était mieux. Ben moi, je voudrais essayer de vous convaincre que de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, pour l'heure, c'est pas parce qu'il n'y a plus de pétrole, c'est parce que ça sera beaucoup mieux. Si on pouvait ensemble démentir l'avenir, eh bien, je serais le plus heureux des hommes et nos enfants les plus heureux des enfants.
Voilà, démentir.
Son ami africain, moi, je le connais aussi. C'est-à-dire, c'est un truc qui court depuis longtemps, cette histoire d'âge de pierre et d'âge de fer.
Il invente un peu son ou alors vous avez le même pote.
C'est possible. Je pense.
Toujours est-il qu'un peu d'optimisme, ça fait pas de mal. Et quitte à parler de l'avenir, j'ai été fasciné par ce que j'ai entendu dans Bonjour la France ce matin sur Europe 1. Il était question des appareils connectés. Vous savez que dorénavant, tout devient connecté à Internet. Tout. Quitte à tomber un peu dans le ridicule, Elisabeth Assayag a joint l'un des patrons de LG France qui vendent l'électroménager connecté. Oui, l'avenir s'annonce radieux.
Sur les lave-linges, on va avoir des informations qui permettent de connaître, d'avoir une sorte de diagnostic des éventuelles pannes ou aussi des notifications au moment où le cycle de lavage va se terminer.
Voilà, vous imaginez le délire, Christophe ? Ah, tiens, j'ai reçu un push, qu'est-ce que c'est ? Ma machine est finie, je vais pouvoir aller pendre mon linge, super !
En rentrant.
Merci monsieur, mais ça va plus loin, ça va encore plus loin.
On a des réfrigérateurs qui prennent des photos de l'intérieur, du contenu de votre réfrigérateur, ainsi quand vous êtes en train de faire vos courses. Vous n'êtes pas obligé de vous souvenir si vous reste du jambon, des œufs ou du lait. Vous avez juste à demander via votre smartphone une photo de l'intérieur de votre réfrigérateur. Ça fait rêver.
Ça fait rêver. Alors
oui,
non,
ah oui.
Non,
ah
monsieur,
oui.
Ça fait rêver que les gens comme vous. Dans les gens qui ont une vraie vie ne rêvent pas de ça, on peut vous dire.
En parlant de vraie vie, si on parlait de politique.
Ah oui, chaud d'ambiance aujourd'hui à droite chez les Républicains, entre ceux qui restent, ceux qui partent, ceux qui ont été virés, ceux qui vont l'être. L'ambiance est bonne, effectivement, tellement bonne que Christian Estrosi ose ce commentaire sur Europe 1 ce matin.
Que les Républicains continuent de cette manière, donner l'image de s'associer à cette thèse stalinienne tout simplement. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans.
Des staliniens chez les Républicains, on est bien, mais il n'y a pas que des staliniens. Il y a aussi des comiques chez les Républicains. L'une des candidates à la présidence du parti, entendue ce matin, là aussi sur Europe 1, Florence Portelli, elle est en meeting devant une salle à moitié vide.
Votez pour moi et je vous promets d'être élu.
Eh ben, on pourra pas lui dire qu'elle ne tient pas ses promesses. Le mot de la fin sur la droite signé du député de l'Aisne sur LCP, Julien Dive, question. Alors, à votre avis, les ministres virés du parti, ils en pensent quoi ?
Maintenant, vous savez, je pense que pour certains d'entre eux, comme dirait Chirac, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre.
Voilà, toujours citer Chirac dans une interview, ça passe toujours.
Excellent. On termine par un mot de médias.
Déjà, Christophe, vous avez été combien de temps à France 2 ?
Oh, 15 ans.
Voilà, je vous pose la question, parce que tout à l'heure, vers 17h, je vous ai écouté, réécouté.
Avec Christine Angot, dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier sur Antenne 2.
Ah bah non, Christophe, c'est plus Antenne 2, c'est France 2. Ben oui, et pourtant, ça fait un petit moment quand même que ça s'appelle France 2. Enfin bref.
Bah, j'aurais pu dire le RTF. Hein. J'ai dit Antenne 2.
Vous avez dit Antenne, on peut le réécouter si vous voulez.
Oui, non.
Non, ça ira.
Je crois que c'est utile.
Autre moment pas mal, formidable même. Dans son émission Village Média ce matin, Philippe Vandel recevait l'animatrice de 28 minutes sur Arte, Elisabeth Quin. Une dame donc qui vide la télé. Question de Vandel.
Et est-ce que vous regardez vos concurrents ?
Jamais, je regarde pas la télé.
Jamais ?
Non.
Ah d'accord, comme si un boulanger vous expliquait ne jamais manger de pain, parce que le pain, c'est dégueu. Bref, Elisabeth Quin aurait-elle un poil de mépris pour l'objet télévision ? Ou alors était-ce juste une bonne blague ? Vérifions.
Blague à part, je ne regarde pas la télévision, la vie est ailleurs, Philippe Vandel, vous le savez très bien, vous écrivez des livres.
Voilà, je le dis aux téléspectateurs de 28 minutes, arrêtez de regarder cette émission, rappelez-vous, la vie est ailleurs.
La vie est ailleurs, bah enfin elle est surtout entre 17h et 19h sur Europe 1. Une petite pause, la dernière avant de passer le flambeau à mon ami Tadei.
On de la traconte sur Europe 1.
On va pouvoir s'étaler, Christine Peña, parce que nous avons du temps.
Oui.
Ce n'est pas courant.
Ben non, c'est pas souvent.
Pour parler du mauvais temps.
Oui.
Qui arrive.
Ben voilà. Alors, les températures vont chuter. On atteint des paliers en fait. Hein. Donc les nuages, la pluie au nord pour demain. Les températures vont chuter à partir de vendredi, même au sud. Alors déjà le matin, il fait frais, hein, en dessous des 10 degrés. Il va falloir s'y habituer. Les nuits rallongent. On ne parle pas encore de gelée matinale. Ça va pas tarder. Mais c'est pas pour tout de suite. En journée, les maximales vont chuter à partir de vendredi dans le sud. Parfois, vous allez perdre 6 degrés à Nîmes, par exemple. Vendredi, il fera 22 degrés contre 28 demain, voyez. Donc, on va vraiment chuter. Dans le sud-ouest, on va passer sous la barre des 20 degrés. À Paris, 16 degrés pour vendredi. Une quinzaine de degrés en Normandie et sous la barre des 15, d'ailleurs, dans le nord-est. Voilà pour les températures.
Le temps reste par ailleurs dans un schéma assez classique.
Oui.
Nuages au nord, soleil au sud.
C'est ça, et alors, toujours pas de pluie d'ailleurs dans le sud-est, vous restez sous le soleil, en PACA, en Languedoc,
Roussillon. On va leur en donner un peu.
Et ben oui, avec un bon coup de vent quand même vendredi, mais du soleil samedi et dimanche. Pour le reste du pays, ça va être mitigé avec effectivement une perturbation qui arrive par le nord du pays samedi, qui va s'étendre jusqu'au centre du pays pour dimanche, et dans le sud, ben, on reste toujours dans une ambiance un peu plus favorable.
Merci à vous, Christine Peña.